Tatiana Zdanoka. Tatiana Zdanoka, âgée en 2025 de 75 ans, a été pendant 20 ans députée du Parlement européen où elle représentait son pays, la Lettonie. Mais en janvier 2024, coup de théâtre.
Un journal d'investigation russe accuse une eurodéputée lettonne russophone, Tatiana Zdanoka, d'être un agent des services secrets russes.
Le site d'information The Insider, spécialisé dans le journalisme d'investigation, basé à Riga, la capitale lettonne, affirmait que Zdanoka était depuis au moins 20 ans une agente du service secret russe, le FSB, le successeur à Moscou du KGB soviétique, et que cela faisait des décennies, je cite, qu'elle défendait les intérêts russes.
Lors de la session plénière du Parlement européen, la parlementaire a démenti les accusations.
La députée a nié en bloc, bien sûr, proclamant haut et fort son innocence.
On dit que Tatiana Zdanoka est un agent.
Yes, I am an agent.
Oui, c'est vrai, je suis un agent.
An agent for peace.
Un agent de la paix.
Comment ne pas croire cette vieille dame, en apparence respectable et pleine de bonne volonté, un peu butée peut-être, mais inoffensive et même touchante, avec sa mise en plis de travers, son collier de perles et son tailleur un peu défraîchi. Mais les preuves apportées par les journalistes, notamment des mails, allaient donner une autre image de la députée lettonne. Ces mails révélaient que Zdanoka échangeait régulièrement avec deux agents du 5e service du FSB, la branche du contre-espionnage du Kremlin qui supervise les opérations secrètes dans les États post-soviétiques comme la Lettonie. Des officiers traitants, auxquels elle rendait compte de son travail en vue de promouvoir les intérêts russes, tant dans son pays qu'au Parlement européen. Sorti au début de l'année 2024, le cas Zdanoka s'inscrivait dans un contexte déjà anxiogène, avec la révélation de plusieurs autres affaires d'ingérence étrangère et de désinformation au sein de l'Union européenne, en provenance du Qatar, de la Chine ou de la Russie. Et deux ans après l'invasion de l'Ukraine, l'affaire Zdanoka ne pouvait que renforcer la crainte des pays baltes de l'existence d'un projet de Vladimir Poutine pour reprendre pied dans ces pays perdus par l'URSS. En avril 2023, par exemple, un consortium de médias d'investigation avait révélé un plan russe pour infiltrer les pays baltes.
Infiltrer la société de chacun de ces États. Premier exemple, la création d'organisations, d'associations qui viendraient diffuser sans en avoir l'air la propagande russe, valoriser l'histoire russe, valoriser le patrimoine commun, préserver les monuments, les statues, valoriser la langue. Avec cette illustration, le Kremlin avait fixé pour objectif que le russe devienne la langue officielle en Lettonie, à côté du letton en 2030.
Dans ce contexte, les accusations contre Tatiana Zdanoka ont été prises très au sérieux par le Parlement européen, qui a réclamé une enquête. Et quatre mois plus tard, il annonçait une série de sanctions à l'encontre de la députée. Tandis qu'en Lettonie, les services secrets lançaient une enquête criminelle. Si les faits se vérifient, qu'est-ce qui aurait motivé l'espionnage de cette représentante de la Lettonie, ce pays balte qui si longtemps a vécu et souffert sous la botte soviétique, qui s'est battu pour son indépendance et a aspiré à rejoindre l'Europe? Pur opportunisme motivé par un besoin d'argent ou réelle conviction politique? Pour comprendre cet engagement secret qui a duré, il faut remonter dans l'histoire personnelle de Tatiana Zdanoka, intimement liée à celle de son pays. Tatiana Zdanoka est née en 1950 à Riga, la capitale de la Lettonie. Mais avec ceci de particulier, essentiel pour comprendre son itinéraire, elle appartient à la minorité russophone. La Lettonie est un des pays baltes, enserré entre la Lituanie au sud et l'Estonie au nord, avec à l'est une frontière directe avec la Russie et la Biélorussie. Les trois pays baltes, ouverts à l'ouest sur la mer Baltique, sont petits, mais possèdent chacun une forte identité culturelle et nationale. Une identité qui s'est forgée dans la douleur et dans la résistance, puisque tout le long de leur histoire, les pays baltes ont subi l'invasion de leurs grands voisins, les Allemands d'un côté et les Russes de l'autre, surtout les Russes. Qu'il soit tsariste, soviétique ou poutinien, le pouvoir du Kremlin a toujours considéré que les pays baltes étaient russes et donc qu'ils lui appartenaient. Indépendants entre les deux guerres mondiales, les pays baltes ont été envahis et annexés de force en 1940 par les soviétiques et ont subi ensuite une occupation très dure, accompagnée d'exécutions massives et de déportations en Sibérie. Les Lettons appellent encore 1940 l'année des horreurs. Mais en juin 1941, les Allemands attaquent l'Union soviétique. En seulement 3 semaines, ils sont à Riga.
Sur le front de Lituanie, les troupes allemandes poursuivent leur avance. Les avant-gardes atteignent bientôt les faubourgs de Riga. Ici, sur la rive occidentale de la Dvina, les troupes rouges avaient concentré de nombreuses divisions afin d'empêcher les unités allemandes de traverser le fleuve. Mais à 10 km au sud de Riga, les soldats du Reich ont pu forcer le passage par surprise. Sous les acclamations de la population, les unités allemandes font leur entrée dans la ville.
En Lettonie, l'armée d'Hitler est accueillie dans un premier temps en libératrice.
Compatriotes, les griffes bolcheviques menacent la Lettonie. Une seule force peut les arrêter. L'armée allemande et nous-mêmes. Pas d'autre voie.
Seulement les Juifs !
Mais très vite, les Lettons déchantent, surtout les Juifs. De 1941 à 1944, la quasi-totalité de la communauté juive est exterminée, avec parfois la complicité active de miliciens lettons. En 1944, s'achève l'occupation nazie de la Lettonie, soi-disant libérée par les soviétiques. Pour célébrer cette libération, les nouveaux vainqueurs érigent dans le pays des monuments à la gloire de Staline et de la guerre patriotique. L'hymne national letton devient illégal, remplacé par un autre qui chante les louanges de l'URSS et de Staline. En réalité, pour les Lettons, 1944 marque le début d'une nouvelle occupation russe qui ne s'achèvera que 50 ans plus tard, en 1991, après la proclamation par les pays baltes de leur indépendance et la chute de l'Union soviétique. À la naissance de Tatiana Zdanoka en 1950, la Lettonie indépendante, donc, n'existe plus depuis 6 ans. Comme ses voisines, la Lituanie et l'Estonie, elle n'est qu'une des multiples républiques qui constituent l'Union soviétique, dirigée alors d'une main de fer par Staline. Les soviétiques ne se sont pas contentés de prendre le pouvoir par la force. Dès 1944, pour briser toute résistance et tout sentiment national, de nombreux Lettons sont déportés au goulag, tandis qu'inversement, de nombreux Russes sont envoyés en Lettonie pour russifier le pays. Des apparatchiks du parti, des militaires, des membres de la police secrète, des enseignants, des techniciens, des ingénieurs. Une population donc russophone est acquise à Moscou. Comme on peut l'imaginer, pour les Lettons, ces Russes ne sont que des occupants, des colons. Au fil des années, les russophones sont de plus en plus nombreux, au point de représenter le quart de la population au moment de l'indépendance. Tatiana Zdanoka, née Kézine, est juive lettonne par son père, un officier de marine, tandis que sa mère est russe. Zdanoka affirme qu'une partie de sa famille juive a été assassinée pendant la Seconde Guerre mondiale par la police auxiliaire lettonne, une milice paramilitaire qui a secondé activement les nazis dans l'extermination des juifs. En En 1971, l'étudiante de 21 ans prend sa carte du Parti communiste. Par intérêt ou par conviction, on n'en sait rien. Une chose est sûre, en URSS, avoir sa carte du parti facilite la carrière. À 22 ans, elle obtient son diplôme de mathématiques à l'université. En 1975, devenue professeure de maths, elle épouse Alexandre Zdanok, qui lui donne son nom actuel.
Oui, c'est bien au son de la marche nuptiale que s'ouvre la brève cérémonie officielle dans la salle des mariages, ornée du seul buste de Lénine. La directrice du palais, flanquée d'une députée du soviet de district, prononce les formules habituelles qui se terminent par « Conformément à la loi de l'Union soviétique, en présence de vos parents et de vos témoins, votre mariage est enregistré. »
Le couple se séparera une dizaine d'années plus tard, sans avoir eu d'enfant. En 1980, Tatiana Zdanoka obtient son doctorat et devient maître de conférences à l'université. Belle progression. Mais, on va le voir, la mathématicienne commence à s'intéresser sérieusement à la politique. Un intérêt qu'elle raconte avoir développé, curieusement, lors d'un voyage d'études en France en 1982. Quand elle voit que François Mitterrand, au pouvoir depuis un an, gouverne avec plusieurs ministres communistes. À partir de 1985, une véritable révolution agite l'URSS.
1985, est-ce l'année Gorbatchev? On pourrait le croire, à voir l'activité tous azimuts du nouveau secrétaire général. À peine élu, en mars, le voici qui multiplie les inspections, dévore les kilomètres d'usines en puits de pétrole. Il tient un langage à la fois moderniste et autoritaire. « Il vous faut, dit-il au cadre qui l'écoute, plus d'ordinateurs et plus de discipline. » Son autorité bien établie à l'intérieur, il cherche une percée à l'extérieur. À Paris, ses propositions sur le désarmement n'impressionnent que modérément François Mitterrand, sans doute parce qu'elles ne sont pas vraiment nouvelles sur le fond, mais les relations franco-soviétiques deviennent plus actives. Plus que les propos tenus, c'est l'homme qu'on juge. Tenace, habile, capable de surprendre à l'occasion, une nouvelle étoile politique est indiscutablement née.
L'arrivée au Kremlin de Mikhaïl Gorbatchev fait souffler un vent de réformes politiques et économiques qui n'épargne pas les pays baltes. Beaucoup de Lettons espèrent une démocratisation de la vie politique, voire un retour de l'indépendance. Mais Tatiana Zdanoka, clairement, n'est pas de cela. Elle reste fidèle à l'Union soviétique, vieux style. Mais rien ne peut arrêter l'histoire en marche. En 1990, avant même la chute de l'URSS, la Lettonie est une des premières républiques soviétiques à proclamer son indépendance. France 3, le 4 mai 1990.
Pendant ce temps, dans la rue, la population consomme ses désaccords. Groupe folklorique de Riga et chant patriotique letton contre les cris des anti-indépendantistes, non au fascisme, nous voulons un référendum. Vous voyez leur slogan, dit cette femme, URSS, SS et tout ça. Moi, je suis russe, mais je vis ici depuis très longtemps. Et maintenant, j'ai peur. Moi, je suis letton et la seule solution pour notre pays, c'est l'indépendance, être libre. Pour l'instant, on se sent occupé.
La Lettonie indépendante se trouve en effet dans une situation inconfortable. Que faire des Lettons russophones qui représentent maintenant le quart de la population? La plupart sont nés dans le pays mais ne parlent pas letton et portent leur regard et leur cœur plus vers la Russie que vers l'Europe. Le gouvernement décide de ne délivrer la nationalité lettonne qu'aux personnes présentes sur le territoire avant 1940, comprenez avant l'annexion soviétique, à leurs descendants directs et aux enfants nés après l'indépendance. Les russophones deviennent alors des non-citoyens. Par la suite, cette législation stricte s'assouplira. Les non-citoyens pourront obtenir la citoyenneté par un examen prouvant la maîtrise de la langue et de l'histoire lettonne. En ce qui concerne Tatiana Zdanoka, comme sa grand-mère en 1940 vivait à Leningrad, ce n'est qu'après un long et âpre combat juridique qu'en 1996, elle obtiendra la nationalité lettonne. Un autre problème de taille que Zdanoka va traîner pendant des années, son passé communiste. Radio-Canada, le 19 août 1991.
Bonjour mesdames et messieurs, l'Union soviétique s'est réveillée ce matin avec un coup d'État. Durant la nuit, des éléments conservateurs du régime ont renversé le président Gorbatchev en prétextant que le pays était au bord de l'éclatement. Le nouveau régime s'est empressé de décréter l'état d'urgence pour 6 mois à travers tout le pays. Les manifestations, les grèves et les rassemblements sont interdits.
À Riga, le coup d'État est soutenu par le PCL, le Parti communiste letton dont fait partie Tatiana Zdanoka. Le gouvernement de Riga riposte en déclarant le PCL anticonstitutionnel. La plupart des camarades de Tatiana décident alors de tourner la page et d'abandonner leurs cartes. Mais elle choisit de rester fidèle à l'engagement de sa jeunesse soviétique.
J'ai considéré que c'était malhonnête de quitter le parti parce que les choses allaient mal. L'idée du communisme est belle. C'est comme être chrétien. Vous ne renoncez pas à votre croyance parce que des choses mauvaises ont été commises pendant les croisades.
Conséquence, parce qu'elle a longtemps été membre du Parti communiste, Zdanoka n'a pas le droit de se présenter aux élections lettonnes. Mais une chance inespérée, venue de l'Ouest, se présente à elle en 2004. La Lettonie est un des 10 pays à rejoindre l'Union européenne, qui compte désormais 25 membres. Un événement historique fêté en grande pompe le 1er mai 2004 à Dublin. Béatrice Schönberg sur France 2.
À Dublin, les drapeaux des 25 pays de la Nouvelle Europe étaient hissés, photos de familles de chefs d'État et de gouvernement pour célébrer l'entrée de 10 nouveaux pays dans l'Union.
Et le mois suivant, les 338 millions d'électeurs de la nouvelle Union élargie votent pour le plus grand scrutin jamais organisé en Europe. Une belle opportunité pour Tatiana Zdanoka. Car elle, qui est inéligible aux élections lettonnes, a bizarrement le droit de se présenter aux européennes. Ce qu'elle s'empresse de faire. Une situation cocasse, puisque Zdanoka, jusqu'alors, s'est toujours opposée à l'entrée de son pays dans l'Union européenne. Une contradiction qu'elle balaye d'un revers de manche.
L'accession à l'Union européenne, de toute façon, est irréversible. Nous devons dire oui à l'Union pour en profiter, nous aussi, économiquement. Nous devons mettre fin à l'euroscepticisme.
La présidente.
Good afternoon, dear colleagues.
En juin 2004, Zdanoka est élue. Elle est la seule députée européenne de son pays à représenter les russophones. Une communauté qui, à ses yeux, est persécutée et qu'elle entend défendre. Au Parlement, elle siège dans le groupe des Verts européens en tant que régionaliste. Avec un certain succès, puisqu'elle est réélue en 2009, elle le sera également en 2014 et en 2019. C'est surtout à partir de 2014 que son soutien à la Russie de Poutine deviendra plus visible au Parlement européen. En février 2014, l'armée russe envahit la Crimée et le mois suivant, ce territoire ukrainien est annexé à la Russie.
France Inter.
Cette fois, la messe semble dite. Vladimir Poutine a donc signé en début d'après-midi avec les nouveaux dirigeants de l'ex-province ukrainienne le traité intégrant la Crimée à la Russie. Juste avant, l'homme fort de Moscou avait pris solennellement la parole devant les deux chambres russes réunies.
Chers collègues, la Crimée a toujours été et reste, en toute âme et conscience de tous, une partie de la Russie. Cette conviction s'est transmise de génération en génération.
Une annexion immédiatement condamnée par l'Union européenne qui adopte des sanctions contre la Russie. Tatiana Zdanoka se distingue en apportant son soutien à l'annexion. Dans une interview, quand un journaliste lui demande ce qu'elle pense de la condamnation par l'Ouest, elle répond
«
Je pense que cette réaction n'est pas équilibrée et qu'elle est injuste. »
Puis Zdanoka met sur le même plan les russophones de Lettonie et ceux d'Ukraine.
Nous nous battons en Lettonie, de même qu'en Ukraine. Et nos droits ne sont pas respectés. Par conséquent, je pense que l'Europe utilise deux poids, deux mesures. Et que clairement, la russophobie prévaut dans toutes les déclarations sur l'Ukraine.
Vous l'avez compris, la députée européenne Tatiana Zdanoka est devenue une propagandiste zélée de la Russie de Poutine. Ce lien ne sera pas démenti après le 24 février 2022. Ce matin-là, sur France Inter, Florence Paracuellos annonce la nouvelle de l'invasion russe de l'Ukraine.
France Inter.
Tout était prêt, sa déclaration a été diffusée à 4h ce matin à la télévision russe. Vladimir Poutine annonce la guerre.
J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force.
Quelques jours plus tard, en urgence, une session plénière extraordinaire est montée à Bruxelles, où le Parlement européen adopte une résolution qui, je cite, « condamne avec la plus grande fermeté l'agression et l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie ». Il appelle à voter massivement en faveur de sanctions plus sévères à l'encontre de la Russie. Un texte approuvé à l'immense majorité des voix. Seuls 13 députés européens ont voté contre. Parmi eux, vous l'avez deviné, Tatiana Zdanoka.
Je défends la paix. C'est pourquoi j'ai voté contre cette résolution qui appelle à une escalade de la confrontation militaire.
Son vote lui vaut immédiatement d'être exclu du groupe des Verts au Parlement. Mais, pas du tout ému par cette exclusion, Zdanoka annonce qu'elle poursuivra son travail au Parlement en faveur des Lettons qui l'ont élu, en coopérant avec d'autres groupes politiques. C'est dans ce contexte tendu que quelques semaines plus tard, la Lettonie, par solidarité avec l'Ukraine, décide la destruction de monuments datant de l'époque soviétique.
C'est un héritage encombrant dont la Lettonie souhaite se débarrasser. Aujourd'hui encore, nombre de statues et de monuments rappellent l'époque de la guerre ou glorifient l'occupation russe. Le gouvernement letton a donc programmé le démantèlement de 69 édifices, comme ce bâtiment surmonté d'une étoile soviétique à Riga.
Tatiana Zdanoka manifeste à Riga avec d'autres russophones pour protester. Comme vous le voyez, cela fait longtemps que Tatiana Zdanoka est dans le collimateur à la fois des autorités baltes et du Parlement européen. Mais le cas de cette femme politique âgée, un peu marginale, obsédée par son combat en apparence d'arrière-garde, sa nostalgie du bon vieux temps soviétique, ses longs discours et ses multiples vidéos sur YouTube qui avaient l'art de lasser et d'agacer, son cas allait être pris beaucoup plus au sérieux en janvier 2024.
Bienvenue sur Delphi TV. Je suis Alina Lastovska. Tatiana Zdanoka a signé un contrat avec des citoyens russes qui seraient des officiers du FSB russe. C'est ce que démontre l'enquête d'un groupe de journalistes d'investigation indépendant russe, Insider, menée en collaboration avec des journalistes estoniens, lettons et suédois.
Le 31 janvier 2024, l'enquête, signée Roman Dobrokotov, Michael Weiss et Christo Grodzev, paraît sur le site The Insider sous le titre « Exclusif ». Une membre lettonne du Parlement européen, Tatiana Zdanoka, est une agente du renseignement russe. Des mails divulgués le confirment. Arrêtons-nous un instant sur ce site d'info. The Insider, littéralement « l'initié », est un journal en ligne indépendant russe spécialisé dans l'investigation. The Insider a été créé en 2013 par Roman Dobrokotov, un journaliste et activiste politique russe né en 1983, qui au fil des années est devenu un opposant virulent à Vladimir Poutine. En 2021, après une énième arrestation, Dobrokhotov a dû fuir la Russie. The Insider, qui a été ajouté par le Kremlin sur la liste des agents de l'étranger, est basé aujourd'hui à Riga, en Lettonie. Le site d'info, qui collabore avec d'autres médias d'investigation européens, comme Bellingcat, a fait la lumière sur de nombreuses affaires. Entre autres, il a identifié les agents russes responsables de l'empoisonnement en 2018 de Sergueï Skripal et de sa fille, réfugiée en Angleterre. Il a aussi démontré la responsabilité du FSB dans l'empoisonnement au Novichok de l'opposant Alexei Navalny en 2020. Mais même loin de la Russie, Roman Dobrokhotov n'est pas à l'abri. En mars 2025, trois citoyens bulgares, arrêtés 2 ans plus tôt en Grande-Bretagne, ont été condamnés pour espionnage. Ils avaient été chargés de traquer, d'enlever, voire de tuer des journalistes, parmi lesquels Roman Dobrokhotov et son collègue Christo Grodzev. Les Bulgares les ont poursuivis dans tous leurs déplacements en Europe, à leur insu bien sûr. Interviewé par la BBC en mars 2025, Dobrokhotov comprend qu'il l'a échappé belle.
I'm very lucky to be alive, actually.
En fait, j'ai beaucoup de chance d'être en vie. L'assassinat était une de leurs options. Mais même si ça avait été un kidnapping, ça voulait dire être emmené en Russie, être interrogé et puis être tué.
Qui a donné l'ordre de vous cibler ?
Je pense que c'était Vladimir Poutine directement. Sous cette dictature, vous ne prendriez jamais seul la responsabilité d'un acte aussi politique. Vous devez avoir l'ordre du président. L'ordre n'a pas besoin d'être écrit, il peut être oral. Mais ça ne peut être qu'un ordre venu d'en haut.
C'est donc cet homme traqué qui, en janvier 2024, avec 2 autres journalistes, a signé l'enquête sur Tatiana Zdanoka. D'après The Insider, elle travaillerait pour le renseignement russe depuis au moins 2004, l'année, je vous le rappelle, où elle a été élue députée européenne. Pour le prouver, les journalistes s'appuient sur des mails qu'ils ont pu se procurer, échangés entre Zdanoka et 2 agents russes. Le premier, Dimitri Gladei, aurait été l'officier traitant de Zdanoka de 2004 à 2013, année où lui aurait succédé Sergueï Beltiukov, un autre agent du 5e service du FSB. Un service chargé tout particulièrement de contrer la vague de révolution pro-démocratie qui s'est développée dans des pays post-soviétiques comme la Géorgie ou l'Ukraine. Il arrive à Zdanoka de rencontrer en chair et en os ses officiers traitants. Le 3 octobre 2006, par exemple, Dimitri Gladei donne rendez-vous à Zdanoka.
J'arrive à la gare de Bruxelles midi, mercredi à 12h40. Je repartirai à 17h30.
Une rencontre qui s'annonce courte mais importante, calée entre 2 avions. Zdanoka répond.
Très bien, je serai à la gare. Retrouvons-nous sur le quai, près du train. Si on se rate, rendez-vous à l'entrée principale de la gare.
Une autre fois, Zdanoka retrouve son officier traitant à Moscou, au café Chocolanitsa, dans le centre-ville, non loin de la Loubianka, le quartier général du FSB. Mais ces espions communiquent surtout par mail et pièces jointes. Pas moins de 19 000 mails compromettants ont été décryptés. Dans ce qu'elle appelle des « rapports », Zdanoka rend compte à ses officiers traitants de toutes les activités qu'elle mène dans le but de favoriser un sentiment pro-Kremlin, que ce soit dans les pays baltes ou au Parlement européen. Le 8 septembre 2007, par exemple, Zdanoka dresse la liste de toutes les actions pro-russes qu'elle a menées depuis 3 mois. Une audience publique au Parlement européen pour protester contre la relocalisation en Estonie d'un monument en hommage aux héros soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, l'organisation d'un camp d'entraînement antifasciste en Lettonie, sa participation à une émission de radio en faveur de l'apprentissage du russe en Lettonie. Elle organise aussi au Parlement européen une exposition présentant les Russes comme la vraie population indigène de Lettonie. Il arrive aussi à Tatiana Zdanoka de demander au FSB de l'argent pour mener à bien ses missions. Mais la députée, qui bénéficie déjà d'une indemnité parlementaire, ne semble pas avoir espionné dans le but de s'enrichir, mais plutôt par conviction idéologique. The Insider révèle aussi qu'en 2010, un diplomate russe, Georgi Mouradov, s'est rendu à Riga pour apporter son soutien à Tatiana Zdanoka et distribuer de l'argent à des réunions de vétérans russophones. La scène a été filmée.
Ce n'est pas par accident que je suis ici. Je suis avec Tatiana Zdanoka, qui est aujourd'hui notre seule compatriote au Parlement européen et qui constamment défend les intérêts de nos compatriotes dans les institutions européennes.
Et lors d'un service religieux dans une église orthodoxe, filmé également. Le diplomate russe appelle les fidèles à voter pour elle aux prochaines élections. Mais à ces actions en faveur des Lettons russophones s'ajoutent des missions plus internationales. Surtout à partir de janvier 2014, quand en Ukraine s'embrase la révolution de Maïdan. Les Ukrainiens, favorables à un rapprochement avec l'Union européenne, manifestent contre le président pro-russe Viktor Yanukovych.
On va en Ukraine où depuis quelques heures la violence atteint son paroxysme. Hier, le président Yanukovych a demandé aux forces spéciales de reprendre la place Maïdan en accusant les opposants de vouloir lancer une insurrection. Depuis, les affrontements redoublent, les policiers tirent à balles réelles, les manifestants répliquent en incendiant des barricades et des bâtiments publics. Le bilan est déjà très lourd, 25 morts et la situation est explosive.
Difficile de savoir qui tire, mais les affrontements se sont poursuivis toute la nuit. 25 morts, 240 blessés. Le pouvoir accuse l'opposition d'avoir lancé une insurrection, mais pour les manifestants pro-européens, pas question de céder.
Il va y avoir une guérilla et elle va s'étendre dans nos régions, dans nos villages, partout pour demander justice. Et nous ne bougerons pas d'ici. Nous n'avons rien à perdre et nulle part où aller.
Autre bastion de la contestation, la ville de Lviv, à l'ouest du pays. Les manifestants ont pris d'assaut le siège local des services secrets. Avant de désarmer les policiers présents et de les soumettre à une fouille en règle. Ce matin, place Maïdan à Kiev, le front est toujours là. Les barricades encore tenues. Au milieu de ce chaos, chaque camp reprend des forces avant de poursuivre leur face-à-face.
Le Parlement européen envoie en urgence sur place une délégation de députés. Parmi eux, Tatiana Zdanoka. Pourtant, à son retour à Bruxelles, ce n'est pas au Parlement européen qu'elle fait son rapport sur la situation à Kiev, mais à son officier traitant du FSB, Sergueï Beltiukov. Beltiukov, qui à chaque fois que Zdanoka apparaît à la télévision russe pour parler de l'Ukraine, lui adresse par mail ses félicitations.
Bravo, c'est très important dans la situation actuelle.
La même année, après l'annexion de la Crimée par la Russie, Beltiukov demande à Zdanoka d'organiser un événement au sein même du Parlement européen pour dénoncer les crimes de guerre commis contre les pro-russes du Donbass.
Bien sûr, Sergueï, c'est possible. Merci de me proposer de vous aider.
De son côté, le FSB, pour aider Zdanoka dans son travail, envoie à la députée une assistante, Yulia Satirova, une étudiante russe. Dans ses rapports, il arrive même à Tatiana Zdanoka de donner des conseils au FSB afin que l'ingérence russe dans les affaires politiques européennes soit plus efficace. En janvier 2024, après la parution de l'enquête de The Insider, le Parlement européen prend très au sérieux les accusations d'espionnage portées sur Tatiana Zdanoka, ouvre une enquête sur elle et, de manière générale, appelle l'Union à agir pour freiner les tentatives d'ingérence russe. Un eurodéputé roumain, Vlad Gheorghe, exprime le sentiment général.
Si quelqu'un au Parlement européen travaille manifestement pour et avec Poutine, cela signifie qu'il ne doit pas pouvoir s'exprimer dans cette assemblée parce que sa voix est la voix de la propagande.
Tandis que la principale intéressée clame son innocence.
On dit que Tatiana Zdanouka est un agent.
Yes, I am an agent.
Oui, c'est vrai, je suis un agent.
An agent for peace.
Un agent de la paix.
An agent for Europe without fascism.
Un agent pour une Europe sans fascisme.
An agent for minority rights.
Un agent du droit des minorités.
An agent for
un agent pour
Europe
une Europe
from
unie
Lisbon to Ural.
De Lisbonne à l'Oural.
Pour se moquer de ses accusations d'espionnage, Zdanouka se fait photographier avec des lunettes noires, accessoire folklorique de la parfaite espionne.
Le Parlement européen a ouvert une enquête sur le cas de l'eurodéputée lettonne et lui interdit de se présenter pour les élections européennes du mois de juin.
Le 10 avril 2024, le Parlement européen annonce une série de sanctions à l'encontre de Tatiana Zdanouka pour avoir enfreint certaines dispositions du Code de conduite en matière d'indépendance et d'éthique. Les sanctions semblent légères, une retenue de 5 jours de son indemnité journalière, soit un montant de 1 750 euros, et l'interdiction de représenter le Parlement jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire en juillet 2024. En fait, les véritables poursuites ne peuvent être menées que par le pays que le ou la députée représente. Dès la parution de l'enquête de The Insider, les services secrets de Lettonie ont initié une enquête criminelle sur d'éventuels liens entre la députée et le renseignement russe. Si ces liens sont prouvés, Zdanouka pourra être poursuivie pour assistance à un pays étranger dans des activités contraires aux intérêts de la Lettonie. Quel que soit le résultat de l'enquête, Tatiana Zdanouka aura réalisé le tour de force d'être eurodéputée pendant 20 ans. Et son cas n'est pas isolé. Dès le printemps 2024, d'autres affaires d'ingérence russe allaient éclater au Parlement européen. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter. Avec les comédiens Anne-Charlotte Dupuis, Grégoire Roqueplot et Benoît Marchand. Mixage Basile Beaucaire et Baptiste Collion. Documentation Frédéric Martin. Réalisation Audrey Ripouille.